Relevons le défi.
Relevons le défi.
Bertrand Hamard revient dans un instant, mais juste avant, c'est le Flash Info avec Victor Mégang. Bonsoir.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Resto en ce samedi soir, un week-end exceptionnel de mobilisation pour les Restos du Cœur. Pendant 48 heures, des animateurs, animatrices et journalistes se réunissent. L'objectif, collecter des fonds pour l'achat de camions frigorifiques. Nous sommes actuellement à 25 843 euros. Pour rappel, un seul camion en coûte 40. L'an dernier, 8 d'entre eux ont pu être financés avec l'opération Radio Resto. Ces camions servent à transporter et desservir les denrées périssables dans les quelques 2000 centres et points de distribution des Restos du Cœur. Ces centres, depuis la pandémie du Covid, ont vu leur population de jeunes augmenter. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apporter sa pierre à l'édifice, les Restos du Cœur permettent aux jeunes de s'engager à partir de 14 ans en étant accompagnés d'un responsable légal. Pour eux, entrer dans la vie active rime avec aider son prochain. Léo Mazet est allé à la rencontre de l'un d'eux.
Nous sommes au cœur de Paris, un jour de pluie diluvienne. Au moment où touristes et habitants courent jusque chez eux pour s'abriter, les personnes les plus dans le besoin viennent chercher du réconfort rue Saint-Roch, où Axel et les autres bénévoles du centre de distribution les attendent. Cette dernière fait partie des héros qui ne portent pas de cap, des jeunes héros. Entre études et vie mouvementée d'adolescente, elle n'hésite pas à donner de son temps et de son énergie pour servir la bonne cause.
Je cherchais une association pour donner de mon temps, de mon énergie. C'est par hasard que j'ai rencontré une femme qui est bénévole elle-même ici. J'ai dit direct, mais emmenez-moi, je veux découvrir. Ça m'a tout de suite plu, ils m'ont tout de suite intégré, ils m'ont mis dans le groupe. Ce qui est cool, c'est l'ambiance entre bénéficiaires, l'ambiance avec les autres bénévoles, et j'aime ça en fait. Et le fait d'aider les gens, donc forcément ça les aide eux, et ça m'aide moi aussi.
Modeste mais surtout grand. Alors comment, à seulement 19 ans, quand le plus gros de notre vie reste à construire, peut-on déjà prendre de son temps pour apporter un soutien à autrui et trouver le chemin des Restos du Cœur ? Réponse.
Je veux plus tard, moi, faire un métier dans le lien social, dans l'humain. C'est ce qui m'intéresse depuis toute petite. J'ai toujours répondu à ceux qui me demandaient ce que je voulais faire plus tard, c'est sauver le monde. Voilà, c'est modeste.
Sauver le monde, aider les gens, une mentalité qui en dit long sur le parcours de la jeune bénévole, une ambition et une manière de penser qu'elle tient à diffuser.
On trouve toujours le temps de donner de son temps. J'incite surtout les jeunes qui ont maintenant les réseaux sociaux et tout ça, en plus on peut grave faire parler de ça. J'incite au bénévolat, mais si jamais il y en a qui ont par exemple un petit peu peur du social, un petit peu peur des gens, ils peuvent aussi être dans les coulisses des Restos du Cœur, par exemple la réception des colis, de l'alimentation et tout ça, ils peuvent ne pas faire la distrib aussi. Cette association a une histoire de dingue que j'aime beaucoup et dont je suis touchée en fait, donc forcément que c'est au Restos du Cœur je me trouve.
Et si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez faire votre tour, un don. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur radio.restoducœur.org. Attention, un S à Resto. Ou sur l'appli Radio Resto.
Merci beaucoup Victor. On te retrouve à 22h pour un nouveau Flash.
Oui, tout à fait. Avec l'émission qui suivra Plan A3. Mais pour l'instant, on va retourner pour le grand quiz des gamers.
Avec Bertrand Hamard.
C'est dommage, moi, plan A3, on me l'a pas proposé, l'émission.
Mais je veux bien rester, moi.
Ça sera un plan A4, du coup. Alors, on est toujours là jusqu'à 22h pour parler jeux vidéo à la télévision à l'occasion de la sortie du bouquin Téléstar de Nicolas Bozon aux éditions Omake. On en profite pour saluer Florent Gorge, le boss de Omake Books, qui a accepté ce sujet, qui n'était pas évident, et qui finalement, maintenant qu'on en parle... apparaît évident, quoi.
Ouais, puis c'est très bien écrit, faut le dire. Hein.
Ouais. C'est pas parce que très bien écrit.
Avec nous, les gars, arrêtez, c'est Noël. Pour moi, j'ouvre les cadeaux.
Sinon, t'aurais pas invité, t'inquiète.
C'est très vraiment, il m'a promis de me donner une question au quiz, donc oui, le livre est très bien écrit.
Alors, justement, on va vous faire gagner ce livre en fin d'émission, avant 22h. Nicolas a préparé un petit quiz auquel vous n'aurez aucun mal à répondre à condition d'avoir bien écouté cette émission. Donc, Virgile, rappelle-nous le numéro de téléphone pour nous appeler pour un, poser des questions, et deux, pour qu'on vous pose des questions pour gagner ce bouquin en fin d'émission.
C'est le 01 46 20 31 31, numéro gratuit.
Voilà, tu le redonnes, on le redonne encore
une fois. Oui, encore une fois. 01 46 20 31 31, numéro plutôt facile.
Voilà, appelez-nous si vous avez des questions pour nos invités qui ont fait, enfin en tout cas qui font partie de ceux qui ont fait le jeu vidéo à la télé. On a encore pas mal de sujets à aborder, mais le plus important, c'est les dons.
C'est les dons le plus important, ouais. Exactement, Bertrand. Nous sommes à 25 943 plus qu'une toute petite marche pour 26 000 hein, quand même.
Allez, on va faire péter les 26 000 dans les prochaines minutes. Ce montant, on peut le concrétiser, c'est-à-dire que quand on va arriver à la barre des 40 000 euros, il y aura un camion de financé pour la campagne hivernale des Restos du Cœur et pour les prochaines années d'ailleurs. Hein, le camion, il ne va pas faire qu'un an. Quoi.
Tout à fait, on le voit physiquement aussi hein, sur le site radio.restoducœur.org. On voit un petit camion blanc qui se remplit au fur et à mesure, et dès qu'il y aura un camion à 40 000, nous le verrons.
Et on rappelle qu'évidemment, tout ça est déductible, hein, c'est-à-dire que si on donne 100 euros, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, ça ne nous coûte que 30, 40, 25.
Voilà, c'est grâce à la loi Coluche hein, que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don, avec un plafond de 1 000 euros, au-delà de la déduction, et encore de 66%. Donc voilà. Un exemple, si on donne 100 euros, 25 euros après réduction fiscale.
Bah quand même.
Tu
voilà,
lâches
25
100 balles
euros.
Et en fait c'est 25 balles de ta poche. Donc voilà. Il faut y aller quoi.
Et bah moi
même un balle de balle.
C'est ce que j'ai fait moi pendant
exactement.
La chanson. Hein. C'est ce que,
ouais, j'ai, avec l'appli.
Avec l'appli, ça marche avec Apple Pay, ça marche avec Apple Pay, ça rentre directement.
Pour Alex, ça marche avec Apple Pay. Il est fan d'Apple. Donc
voilà.
Je place le Apple Pay là.
Okay, c'est bon, tu m'as eu.
Bon, on va maintenant aborder un gros sujet dans cette histoire du jeu vidéo à la télé. On a parlé tout à l'heure des origines, on a parlé un petit peu de cet âge d'or des années 90. Et puis, Canal+, il faut bien se remettre dans le bain de la fin des années 90, des années 2000. Canal+, c'est vraiment le summum en matière de médias, d'innovation. Et c'est Canal+, qui y va, mais franco.
Canal+, c'est énorme. Et là, je pense que Jean-Pat va pouvoir nous expliquer, parce que Canal+, ils vont investir dans un truc qu'ils ont appelé les nouveaux programmes. Et dans ces nouveaux programmes, il y a énormément de jeux vidéo. Et Jean-Pat, bah, il était là. Nouveau programme, t'étais là, Jean-Pat.
Jean-Pat, t'es où, toi, à cette époque, et comment... Il est en train de faire un don. Tu le feras pendant la chanson. Donc, raconte-nous, toi, tu fais quoi? T'es où à l'époque, lorsque ces nouveaux programmes, ce service un petit peu qui va ouvrir le jeu vidéo chez Canal, voient le jour?
Moi, je peux en parler, mais Matt est arrivé à bosser au nouveau programme avant moi. Puisque moi, je suis arrivé en mars 97 et c'est deux points pour lesquels Matt a produit Digit, une émission musicale, entre autres.
Oui, Warp Zone aussi, une émission jeux vidéo.
Exactement. Moi, j'arrive parce que je fais un blog à l'époque sur les nuls, puisque j'étais biographe des nuls. Et grâce à Internet, à chaque fois, j'ai trouvé du taf avec Internet. Moi, c'est assez incroyable. Je suis un passionné.
Surtout pour l'époque.
Mais c'est vrai. Non, mais ma culture, vous le savez tous autour de la table, c'est la télé, fabriquer des programmes et tout. Internet, j'y étais très tôt, en 96, AOL et la blinde de pognon. Et on me trouve, et Nathalie Cosserdon, qu'on peut citer, qui bossait avec Alain Lodiberder, créateur des nouveaux programmes, me repère avec mon blog, et on me propose de rejoindre ces deux points, parce qu'ils vont lancer la version espagnole, Canal Essai, qui a duré encore moins que ces deux points, je crois, après derrière.
Alors, expliquons déjà ce qu'est ces deux points, parce que c'est...
Le futur.
C'est incroyable, c'est-à-dire que c'était pas seulement une chaîne, c'était un service de téléchargement de logiciels, puisqu'à l'époque, on captait la télé, en tout cas Canal+, CanalSat, par le satellite, et on est à une époque où télécharger des softwares, des freeware, ça n'est pas possible. Il faut acheter un magazine pour avoir le CD-ROM une fois par mois, ou ce service qui était ultra innovant.
Mais on l'a souvent dit, des fois en souriant, mais Alain Lodiberder a cette force qu'il a toujours un temps d'avance. Bon, bah, pour le business, c'est chiant, mais oui, pour les révolutions, c'est génial. Non, mais c'est une réalité. Après, il y a le deuxième monde, mais donc... Les mecs de Canal+ numérique lui disent, bon, bah voilà, alors, dans un tuyau, maintenant, tu peux mettre 10 chaînes de télé, et puis il y a des datas, des 0 et des 1, etc. Donc, il faudrait qu'on puisse faire ce service de téléchargement. Parce qu'en fait, vraiment, après, c'est déjà les petits gars qui étaient en interne qui en ont fait une chaîne de télé. Parce qu'au départ, c'est un canal qui fait des bandes démos de jeux vidéo, sur lequel bossait Marcus, et moi, j'étais son confrère pour la version espagnole. On testait les jeux, alors moi, en espagnol, voilà, qu'est-ce que c'est ? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à l'époque, donc effectivement, tu payais, je ne sais plus, j'ai le kit chez moi, mais je ne sais plus
francs.
Comment ça...
50 francs.
50 ouais, francs, messieurs, dames, ouais, pour un truc bien. Qui, à mon niveau, n'a jamais marché. Je tiens à le dire aujourd'hui, Alain, s'il te plaît, rends les 50 balles.
Bonne foire.
Mais j'ai jamais réussi à télécharger, très sincèrement, mais le système c'était toujours un temps d'avance, parce que ça a inspiré plein de gars, on rigole. Mais
et on téléchargeait.
Et donc, il y avait, alors on téléchargeait.
C'est un programme, on téléchargeait dans certaines heures.
Soit des jeux vidéo.
Soit des logiciels.
Soit des logiciels.
Mais genre des vrais jeux vidéo.
Tous les trucs.
Il fallait 3-4 jours pour télécharger.
Ouais, d'accord. Je commence pas à juger, mais c'était des jeux.
Je juge pas, je pose des questions.
En fait, c'était pas. Ce qui est fou, c'est que c'était pas à la demande. Il fallait être là à l'heure précise pour pouvoir télécharger la démo de Doom. C'est-à-dire, tu voulais la démo de Doom, t'étais là à 22h30, tu branchais en fait ton fil, je crois que c'était l'Ethernet.
C'était le port parallèle, non?
Le port parallèle, excuse-moi.
L'Ethernet, c'était la téléphonie. Non, c'était un câble téléphone.
Bon, en tout cas, il fallait brancher le décodeur CanalSat.
Oui, monsieur.
À ton PC,
oui.
Fallait être là à 22h30.
Oui, madame.
Si tu ratais, ben, c'était mort. Il fallait que tu attendes le lendemain, t'appuyer et ça téléchargeait. Ah,
c'est technique.
Hein. Non, mais c'était payer foireux. Par carte bleue. La carte bleue, ça marchait pas. Je vous jure que moi, non, vraiment, j'étais fan de. Non, mais honnêtement, j'étais fan de ça, ça n'a jamais marché chez moi.
Tu veux faire une super émission, tu renvoies des jeunes d'aujourd'hui dans cette époque-là. Tu filmes les réactions. Et là, c'est l'explosion du cerveau.
Alors, j'aurais dû télécharger les jeux.
Mais donc, à la base, c'était donc un service de téléchargement, sauf que comme il passait sur la télé, il fallait bien occuper l'image. Et c'est là que vous avez commencé à produire du contenu qui occupait l'écran. Hein, et c'est là qu'est né ce qui est devenu après Game One.
Bien sûr. Je dois saluer Nathalie Cosserdan, Jean-François Estève aussi, qui était le directeur de production et qui a poussé pour faire une chaîne de télé avec Hugues Martin qui faisait des parodies de télé. Enfin, c'était complètement dingue. Moi, quand je regardais ça chez moi, avant qu'on m'appelle, je me disais, waouh, les mecs. Moi, j'étais fan parce qu'il y avait Microscan, donc j'étais intéressé par la techno. C'était un mec
génial,
fan d'Apple. Microscan, super émission, vraiment super émission, qui parlait justement d'informatique et tout. Et pour te répondre, effectivement, au départ, la chaîne, c'est les bandes démos qui disent à telle heure télécharger tel jeu. Il y en a des gratuits, il y a des payants, voilà, etc., etc. Après, il y a Ness qui est venu faire le mode d'emploi.
Le journal du téléchargement.
Après, on a fait. Oui, moi, la première fois que j'ai écrit et que j'ai travaillé avec Ness, c'était sur le journal du téléchargement qui était tourné dans les sous-sols.
Donc, elle disait aujourd'hui, en fait, cette semaine, vous pouvez télécharger.
Je crois qu'on te voyait à l'antenne.
Le jeu de Formule 1 à telle heure.
Et moi, j'ai fait l'escroc, j'ai fait le parce que le mec qui était vraiment, on avait vraiment un centre d'appel téléphonique pour les gens où ça galérait. Et il était de temps, il était un peu... il était très soupolé, très nerveux, le vrai gars qui s'occupait du service de téléchargement. Et Ness me dit, mais fais-le, fais-le. Et ma première télé, c'est avec mon costume de mariage, un épi grand comme... on a la radio, mais bon, grand comme ça. Et on fait un faux duplex. Donc je suis à côté d'elle. Et bonjour Ness, on me dit, tu regardes vraiment là, hein, t'es pas là et tout, machin. Et donc on a encore... J'aimerais retrouver les rushs de ce truc-là. Et ensuite, en régie, on m'a habillé, on m'a fait croire que j'étais à Issy-les-Moulineaux. Alors si ton décodeur ne marche pas, tu débranches. Je disais des trucs que je comprenais un peu quand même, mais pas trop. Et c'est la première fois que j'ai fait de l'antenne, et c'est la première fois qu'on a commencé à collaborer avec Ness, que j'embrasse si elle nous écoute, et c'était le journal du téléchargement. Et là, ça frétillait de partout. Il y a Tews qui avait aussi des idées de format, qui avait posé des formats, il s'occupait de la grille de ces deux points.
Ouais, il y avait des séries aussi.
Il y avait des séries, Vision d'Escaflone, il y a eu Evangelion.
Exactement. Voilà. Et alors, déjà la bonne nouvelle, je vous interromps les garçons, 26 000 euros.
26 000 euros, tout rond.
Ça y est. Ouais.
Bravo les gars, on est motivés. Ça, c'est le plus... voilà. Continuez, les gars.
Tremble, Zerator.
C'est pas pour autant qu'il faut arrêter.
Zera, si tu m'écoutes, tremble. C'est terminé.
C'est pas pour autant qu'il faut arrêter.
Non mais attends, c'est, on démarre.
Ah oui,
on démarre à 26 000. Maintenant, on accélère. Voilà. 26 000 euros. Et franchement, on est là jusqu'à 22 heures. Faites-nous plaisir. On rêvons de ce 27 000 euros, voilà. Donc, vous donnez, on vous rappelle qu'il suffit d'aller vous taper sur le site Radio Resto.
Radio.restoducœur.org.
Ouais, un petit bouton, faites un don.
C'est super simple.
C'est hyper simple.
Et sur l'application aussi. Donc,
75% de déduction fiscale, autant dire, ça vous coûte vraiment pas grand-chose. Donc, faites des dons. Nous, on vous donne plein d'anecdotes. Donc, on continue de remonter l'histoire du jeu vidéo à la télé. On a parlé de ces deux points, de Canal+, qui investit fortement le jeu vidéo à l'époque, qui commence à même créer des logiciels. On se rappelle du Deuxième Monde, etc. Et
c'est le Metaverse, hein, le Deuxième Monde, c'est le précurseur des Métaverses de demain. Hein.
Mais complètement.
Donc, c'est quand même complètement avant-gardiste.
Complètement.
Non, Alain Le Diberder, que je resalue ici, était vraiment un mec qui a une vision... Enfin, moi, je me souviens de me dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça, le gars ? Et en fait, 2 ans, 3 ans après, ou 10 ans après, il y a des mecs qui font bon, tiens, on va faire un truc. Et tu dis mais c'est le Deuxième Monde, excusez-moi de vous déranger. Le téléchargement, c'est pareil. Et à chaque fois, ce monsieur qui a fait un long parcours et à qui on doit beaucoup de choses dans l'histoire du jeu vidéo à la télé, de toute manière, et dans les nouvelles techno, vraiment, il a toujours la vista. Mais comme je disais après, le problème, c'est que quand t'es dans le business, t'as un temps d'avance, mais vraiment, quoi.
Ouais, il était très en avance. On a au bout du fil Rémi, qui est l'un des bénévoles des Restos du Cœur. Comment ça va, Rémi ?
Ça va très bien, et vous ?
Ouais, super, ça s'entend, non ? Tu passes une bonne soirée, tu passes un bon week-end ?
Oui, je passe un bon week-end, oui. Ouais, j'entends, c'est parce que je suis dans mon foyer, donc je suis un foyer d'accueil spécialisé de Châtenois, alors.
Et ça fait combien de temps que t'es bénévole au resto ?
Bah, depuis un mois, donc je suis inscrit au forum des associations de Châtenois le mois dernier, avec un éducateur.
D'accord, et ça consiste en quoi ?
Bon, en fait, comment dire, je suis allé... je m'en souviens plus.
Ah oui, pas de c'est problème. Rémi, est-ce que t'es un gamer ? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo toi aussi ?
Oui, je suis un gamer. Donc des fois je joue aux jeux vidéo sur ma Nintendo DS, FIFA, Real Football.
Ok, tranquille. T'as regardé des émissions de jeux vidéo à la télé par le passé ou récemment ?
Par le passé, oui, je m'en rappelle, c'était Reset sur Canal J avec Bertrand Amard.
Ouais, il est sympa, lui.
Il est super. Il est vraiment cool. Ouais. C'est marrant qu'il soit pas venu, d'ailleurs. Ça, ouais. Il a quand même fait pour
on lui passera autres. Le bonjour. Merci, en tout cas, c'était cool. Donc, tu regardais Reset, tu sais que ça me fait toujours plaisir quand des gens me disent je regardais Reset, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Rémi. Franchement, c'est beau ce que tu fais et ce que font tous les bénévoles des restos. Moi, j'étais bénévole, merci, j'avais 14 ans, je démarrais la radio et j'étais bénévole dans la deuxième année des Restos du Cœur. C'était vraiment tout le début et j'en garde un excellent souvenir. Merci beaucoup pour ton appel, Rémi.
Merci
beaucoup,
donc,
Rémi.
Donc, je lance un appel aux dons.
Vas-y.
Parce que, je lance un appel aux dons. Parce que là, 26 000 euros, c'est pas assez.
On est d'accord.
26 000 euros 100.
Ah. 26 000 euros 100, oui. Donc
c'est pas assez quand même. T'as raison,
c'est
Rémi.
C'est pas beaucoup assez pour financer des camions. Donc je lance un appel à tous les auditeurs qui nous écoutent, peut-être, qui s'y m'entendent.
Ouais.
Donc, je veux qu'ils fassent un don sur radio.restoducœur.org ou restoducœur.org.
Merci, Rémi. Merci.
Donc, si les camions... Si les camions ne seront pas financés après les 48 heures d'antenne, c'est mort.
Hein. Non, c'est vrai, donc il faut le faire.
Moi,
Rémi
m'a convaincu.
Il faut le faire tout de suite. Non, mais t'as raison.
Allez, hop, c'est parti.
Voilà, donc Jean-Pat...
Avec Apple Pay, c'est génial. Alex.
Ouais, enfin, fais pas de conneries quand même non plus, Jean-Pat.
Depuis que tu prends sur le téléphone, il faut faire un don depuis tout à l'heure. C'est marrant, j'ai des textos de mes gosses qui disent « Attends, viens, on part ».
Il fait beaucoup de dons, Jean-Pat.
Je le fais pas, c'est tout.
Il y a mon fils qui m'a dit « Il y a FIFA 23, s'il te plaît, déconne pas. » Léo, tant pis.
Bon, moi, 23, j'ai fait un don. Tous ceux autour de la table vont faire un don avant la fin de l'émission. Et si vous pouvez, vous aussi, de votre côté, un petit don avant 22h, même un petit don. 10 mais, euros, ça oui. correspond à 2,50 euros, franchement.
Donc il faut appeler, il faut faire un don. Hein,
exactement. T'as raison, Rémi. Rémi, on te remercie. Continue de jouer aux jeux vidéo et de donner du temps à ceux qui en ont besoin en étant bénévole au resto. À bientôt.
Et merci pour ça.
À bientôt, au revoir.
Salut Rémi. Donc ça y est, on est arrivé au début de Game One, qui est quand même la chaîne du jeu vidéo. Alors autour de la table, à peu près tout le monde a bossé sur Game One, sauf moi.
Ah, c'est vrai, c'est fou quand même. Incroyable.
Il n'y a pas un moment où tu as failli quand même, Bertrand ?
Attends, alors moi ce qui est dingue, c'est que tout le monde pense que j'ai bossé chez Game One.
Ouais.
Vous n'imaginez pas le nombre de livreurs à une époque qui, lorsque j'ouvrais la porte et qu'on m'apportait ma pizza, me disaient « Ouais, le gars de Game One !» Non.
C'est faux.
C'est-à-dire, non, mais c'est là où on voit le succès de cette chaîne. C'est-à-dire que les gens m'associent aux jeux vidéo à la télé, donc forcément à Game One.
Exactement. Moi, j'ai une anecdote. Game One m'a presque sauvé la vie une fois, mais vraiment dans la vraie vie.
Julien Chiez.
J'essaie de traverser, etc. Puis là, il y a une bagnole qui arrive fond de balle. Il y a 3-4 mecs qui ont l'air un peu excités à l'intérieur. La voiture pile. Le mec sort la tête de la portière et fait « Ouais !» Oh, c'est le mec de Game One! Ils sont sortis, ils ont fait un câlin, ils sont partis. Voilà. Et là, j'ai fait, ça a été très rapide, mais j'aurais pu me faire casser la gueule et finalement, ils ont kiffé.
C'est vrai merci Game One. On nous a jamais jeté de pierre. C'est ça qui est fou. Hein.
Non, ouais. Toujours de la bienveillance. Toujours.
Alors, comment naît Game One, Matt?
Le papa est là.
Alors, tu as parlé tout à l'heure de, et vous avez parlé ensemble aussi de Canal+, nouveau programme. Canal+, nouveau programme, il y avait ces deux points, donc le truc dont on a parlé, les jeux vidéo, l'édition de jeux, et puis toutes les émissions pour Canal+, il y avait Cyberculture, Cyberflash, etc.
Avec Shin Lanzmann, Cyberflash c'était tous les jours, et Cyberculture c'était le magazine hebdomadaire ou mensuel.
Samedi. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, Canal+, à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu parti en... à la fin des années 90, donc ils commençaient à baisser leurs actifs, à virer un peu tout ce qui était créatif. Enfin, c'était un peu une révolution à l'envers.
Il y a une grande crise chez Canal, effectivement.
Le mec à la chaussette trouée.
Voilà.
Donc c'était, comment il s'appelait le gars ?
Jean-Marie Messier.
Jean-Marie Messier,
qui voulait faire l'Universal, voilà, qui avait des idées totalement folles et qui a un peu plombé Canal+, quoi. Et donc, ils vendaient tout. Ouais. Ils vendaient tout, et notamment les nouveaux programmes. Ils disent, bon, on va le vendre, qui est intéressé. Infogrames disent, nous, ça nous intéresse. Ils achètent.
Infogrames qui est éditeur de jeux vidéo. Voilà. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est notamment tous les jeux adaptés de la bande dessinée, les Tintins, les Astérix, voilà, cette grande époque.
C'est aussi Driver.
Les jeux
de rallye, enfin.
Réflexion Studio, donc effectivement.
Alone in the Dark. Qui encore aujourd'hui inspire les Resident Evil, les Callisto Protocol,
absolument, absolument.
Ronaldo, Frédéric Reynal.
Ça c'était éclaté, ça.
Bruno Bonnell présente. Et à ce moment-là, Infogrames rachète aussi la marque Atari.
Je crois que c'est un peu après, non ?
C'est après. C'est quand t'es parti, c'est l'année d'après.
Ouais, je crois que c'est un peu après. Ouais. C'est un peu après.
Donc, Infogrames rachète les actifs gaming de Canal.
Voilà, et ils se disent, ces deux points, c'est cool, on va pouvoir faire une chaîne de télé. Je pense qu'il y avait cette idée de comment on appelle, de multimédia, comme on disait à l'époque. Ouais.
D'une présence
Présence un peu sur tous les supports, sur tous les médias. Et ils se disent ce serait peut-être pas mal de faire une chaîne de jeux vidéo, mais bon, ça marchera pas parce qu'on n'a pas les moyens, ça va, etc. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit comment on peut faire, on a pensé à un truc, mais c'était leur truc, c'était tout pourri, quoi. T'avais deux émissions par jour multidiffusées, enfin ça avait aucun sens. Et donc, j'aurais dit, mais non, on peut s'en sortir. Et on a lancé la chaîne comme ça, quoi. Donc, c'était assez cool, avec un tout petit budget malgré tout. Mais avec ce poids où tu avais Canal+ et Infogrames associés. Ouais. Et Canal+, allait, 3 ans après, contractuellement parlant, aller se barrer. Donc, il allait rester plus qu'Infogrames. Donc, c'était assez
compliqué. L'histoire était écrite dès le départ.
Oui, c'était.
Ça, je savais pas ça.
C'était écrit dès le départ. Hein. Canal+ restait, en fait, parce qu'ils avaient les immeubles, ils avaient les gens. Donc ils ont
et il était prévu d'ouvrir le capital, le rêve idéal qui était impossible, c'était d'ouvrir le capital à plein d'éditeurs et tout, mais Canal prenez le temps de trouver ça et nous on se barre dans 3 ans.
MCM qui au départ était Sony, Universal, enfin dans le capital il y avait toutes les majors, donc
Alors il y avait quoi comme programme à l'époque sur Game One?
Alors à l'époque il y avait plein d'émissions, des journaux, des tops, les trucs habituels, et il y avait surtout Level One. Et aussi l'émission de Didou, mais bon, qui parlait moins de jeux vidéo.
Le Dawa?
Game One.
Qui était plutôt de la libre antenne, mais que j'aimais beaucoup.
Plutôt de la libre antenne, je crois qu'on peut dire ça.
Voilà.
Très, très libre.
On parle un peu de jeux vidéo, ils s'en foutaient complètement.
C'était le courrier des lecteurs, un peu.
Exactement. Ouais, enfin, c'était le courrier de Didou, en fait.
C'était réalisé par toi, Charles.
Absolument, exactement.
C'est lui, il m'appelle dans son bureau un jour, il me dit, tiens, il y a lui, là. Alors il énervait tout le monde tout le temps, Guillaume. Et il me dit, voilà, il veut faire un truc. Et ça a été, on a été en face tout de suite. Et on est passé en 3 semaines, puisque tu parles de ça. Donc il était directeur des programmes. On faisait 10 minutes. Et en 3 semaines, il me dit, bon, bah vous t'émerdez, mais... même budget, même durée de tournage, il faut faire des 30 minutes.
Ouais, moi il fallait que je remplisse l'antenne. Et puis,
mais
comme
parce que le mec insultait sur Minitel, ça rapportait du blé aussi.
Mais t'avais quand même la moitié des gens en gros qui disaient, mais c'est qui ce connard et tout. Mais, mais avec des. Ouais, vraiment, ils y allaient fort, dans le courrier et tout. À l'époque, on a commencé à avoir des mails. Hein. Et la moitié, mais c'est génial, c'est extraordinaire et tout ça. Et bon, c'est bête qu'on ait arrêté parce que je sentais qu'on commençait à avoir un petit buzz dans la branchitude, quoi.
Ouais, complètement.
Tu vois, il y avait gens, des journalistes un peu, on va dire, les branchés, tout ça, qui commençaient à réagir à cet espace de liberté absolue où le gars insultait les téléspectateurs, quand même.
Et donc, Level One, qui était un peu l'ancêtre du streaming, hein, puisque avant Level One, les jeux vidéo étaient capturés, on en parlait tout à l'heure, montés, on en sélectionnait des extraits, et là, d'un coup, on va jouer à un jeu vidéo en direct et le diffuser à la télé.
C'est ça, mais je crois que Marcus avait vraiment cette volonté et cette idée, mais tenace, il y tenait, il m'en parlait tout le temps. Et moi, j'étais... je disais, c'est peut-être bien. Bon, après, est-ce que les gens vont regarder quelqu'un jouer pendant une heure? C'est un peu bizarre comme idée. Mais ça peut marcher. Par contre, je me dis, mais peut-être que Marcus, il a affiné un peu sa personnalité. Il est plus à l'aise, mais c'était un peu un gros nounours. Très, très drôle, mais un peu nounours.
Et puis, il est nul en jeu vidéo, quoi.
C'est ce qui est génial dans Level 1.
C'est ça qui est ouf. Il s'appelle Level 1 parce qu'il passait jamais le premier niveau, de toute façon. Donc,
oui. Tu vois. Et donc, quand il a amené la cassette, je crois qu'il y avait deux ou trois émissions, je ne me rappelle plus. Le pilote, j'aurais dit faites le pilote et machin. Et quand j'ai regardé, j'ai fermé la porte du bureau, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que c'est. J'ai regardé une deuxième fois, une troisième fois. On le met tous les jours. Ah non, j'ai adoré. C'est-à-dire que même les jeux qui étaient pourris, enfin.
Ça qui était fort.
Tu vois, même un jeu de Alexandra Lederman, machin, ou je sais pas, t'as même pas envie de jouer, t'avais envie de jouer quand
Comment ça, t'as pas envie de jouer, c'est génial, Alexandra Lederman.
Non, mais je disais, pour moi par exemple, parce que je suis pas très. Ou un jeu de foot, mais il n'y avait pas de jeu de foot, puisque, à part quand Thuram est venu, il faisait pas de jeu de foot parce qu'il déteste le football.
Si, on en a fait ensemble.
Si, il est venu.
D'ailleurs, attends, je fais une petite anecdote. Qui autour de la table a eu le droit de figurer dans l'équipe de France du jeu de foot de ce gars sur Saturne?
Non, Julien, t'es pas dedans, toi?
Non.
Ah, moi, je suis dedans.
T'es dedans, toi?
Moi, je suis dedans. Je suis dedans parce qu'en fait, un jour, Stéphanie, qui était l'attachée de presse de Sega, avant d'être l'attachée de presse de Konami pendant de longues années, elle reçoit un courrier ou un mail de la direction de Sega au Japon qui dit on sort un jeu de foot, mais on n'a aucune licence. Donc, donne-nous des noms qui font genre français pour composer l'équipe. Et Stéphanie lui envoie 11 titulaires qui sont en fait des noms de journalistes de la presse de l'époque. Et donc, si t'achètes le jeu sur Saturne, il y a un attaquant, je crois, qui s'appelle Amar.
C'est génial.
C'était pas des noms très français, tu vois, mais ça marchait pas très bien. C'est pas Laurent Blanc, tu vois, c'est Amar. Mais bon, je pensais qu'il y avait des gens dans l'équipe là, autour de la
chance, tu vois.
Bon, désolé. Donc,
on voit qui pèse.
Il y en a 10 autres. Hein, je sais plus qui.
Donc, il y a Benjamin Jouvray. Contient.
Ouais. Bertrand Jouvray.
Je dois m'excuser auprès de lui. Benjamin Jouvray, c'est pas possible de faire ça.
donc on est sur Game One. Il y a ces émissions et finalement, Game One s'impose comme la chaîne du jeu vidéo, comme à côté. Beaucoup de chaînes commencent à délaisser le jeu vidéo, tout le monde a envie d'aller bosser chez Game One. Toi, Alex, et puis après on va passer Alex Pilote, après on va passer la parole à Julien Chiez et à Alex Nassar, racontez-nous votre Game One, parce que toi, avant de lancer No Life, et on va en parler, t'as été chez Game One.
Ouais, j'ai eu la chance d'être contacté par Patrick Giordano, qui me dit, ouais, viens, on fait un projet là, qui peut t'intéresser. Il m'avait rien dit au téléphone.
Ah, j'avais pas trop le droit de dire.
J'arrive, c'était en juin, donc quelques mois avant le lancement, en septembre 98. Et il me fait visiter et j'hallucine. Une chaîne de télé qui parle de jeux vidéo, c'était juste le rêve. Donc moi, j'avais fait des études pour être réalisateur en vidéo, quoi. Et je me disais, mais mes deux passions, le jeu vidéo et la vidéo ensemble, c'est incroyable. Mais à ce moment-là, j'ai pas osé lui dire. J'étais tellement timide. Et pour moi, c'était tellement un rêve que je me dis, je vais pas l'emmerder. Je vais pas lui dire, je veux bosser là. Mais il m'a rappelé plus tard en disant hey, tu veux pas faire un test? Il m'a confié Metal Gear. Parce qu'à l'époque, j'apprenais les japonais. Il avait retenu ça. Et il m'a dit on a reçu Metal Gear Solid, le premier, en japonais. Tu veux pas faire le test import? On a un import, c'était tous les jeudis. Il y avait des tests import. Je dis ouais, j'arrive. Et il a regardé, il a fait ah, oh, c'est super. Et voilà, j'ai commencé à bosser.
Génial.
Ouais, et puis il faut dire que pour Alex, je connaissais sa série Bitoman, dont on avait parlé sur MCM, quand on avait fait la nuit manga sur MCM. Et voilà, même si Bitoman est très sommaire, c'est moins sophistiqué que France 5, la série qu'il a fait après, c'est envoyé que c'était un très très bon réel. Donc tout de suite, je me suis dit, oh là là, lui, je garde bien dans la tête parce que.
France 5, ça c'est la série, avec Yellow Baguette.
Quand je suis arrivé à Game One, moi j'ai trouvé ça hyper pro, c'était vraiment impressionnant. Il y avait le bureau de maths à droite en rentrant, à gauche la salle de rédac où travaillaient tous les rédactrices, les rédacteurs qui préparaient leurs émissions, donc Alex a connu aussi. Et derrière, les bancs de montage, il y en avait au moins 5-6, avec les monteurs qui travaillaient toute la journée. La bandothèque, toute la cave, c'était toutes les cassettes. Il y avait d'ailleurs les cassettes de ces deux points, les cyberflash qui étaient encore là.
On en a récupéré d'ailleurs quelques-unes avec Patrick, parce qu'à un moment, ils jetaient tout. Hein.
Ouais,
ils ont toute la bandothèque a été foutue à la poubelle. Donc on est allé. On a rempli. Alex, t'étais là, je crois aussi. Hein.
Ouais, j'ai pris deux, trois.
On a rempli.
Moi, j'en ai 350.
Ouais, moi, j'en ai quelques-unes.
Mais... Et Julien, toi, t'es arrivé comment chez Game One? Et en quelle année?
Eh bien. Moi, je crois que c'était en 2000. Il y a un monsieur qui est à côté de la table, Alex Nassar, qui m'a appelé en fait pour le bilan de l'année 2000 du jeu vidéo.
Oui.
On était potes déjà ou pas du tout?
Non.
Ah, je t'ai appelé, genre.
Ouais, tu m'as appelé parce qu'à l'époque, moi, j'étais à Joypad. D'accord. Et tu m'as dit, ouais, bah, on aimerait bien que tu viennes pour faire un peu le bilan, etc. Je
me rappelle. Des jeux vidéo.
Juste à côté de moi, il y avait AHL. Donc moi, j'étais heureux.
Ah, là, je vais courir la légende.
Et en fait, bah du coup, ça s'est bien passé. Résultat, en plus, on avait une passion footballistique commune.
PES.
Donc, ouais, PES, mais le vrai foot, en fait. Donc moi, le midi, certaines fois, on allait jouer au foot juste à côté des terrains de Game One. Et puis, de fil en aiguille, je crois que vous m'avez demandé, est-ce que tu veux pas venir faire une chronique la Zig Zone, je crois, à un moment, parce que moi, j'avais une rubrique de musique de jeux vidéo dans le Joypad qui s'appelait Zigpad, et ça les intéressait. Et puis, voilà, petit à petit, comme ça s'est fait.
Et j'ai découvert ce soir que Jean-Pat ne croyait pas du tout à cette chronique musicale dans l'émission.
Il était très bon animateur. Moi, je l'avais vu et je trouvais qu'il était super à l'aise et tout, etc. Et c'était pile au moment où ça allait très mal. Je suis parti, c'est au moment où je suis parti de Game One aussi, quelques temps après. Tu me l'as présenté. Je suis parti en février 2002. Tu as dû me le présenter. Je l'avais vu faire le bilan de l'année, je me rappelle très bien. Et tu me l'avais présenté à Blin. Et effectivement, comme quoi on n'a pas forcément le micro, il me dit « Ouais, alors la Game Zone, moi j'étais très fier de la Game Zone. » Il me dit « Le gars, il va parler des musiques de jeux vidéo. » Et je sais pas, ça n'a pas résonné en moi. J'ai dit « Franchement, non, laisse tomber. » Et puis, je vais être lourdé un mois après ou un truc comme ça.
Ce qui n'a aucun
rapport. Comme quoi, tu vois, le karma. Merci Julien. Non, non, je plaisante. Non, et toi Alex, alors, ton Game One?
Alors, mon Game One, c'est marrant qu'Alex ait une histoire avec Alex Pilote, avec Metal Gear Solid, parce que j'ai fait Metal Gear Solid aussi, en japonais, mais je parle pas japonais. C'est pour montrer le degré de fanatisme que j'avais à l'époque. Et c'est en jouant à ce jeu que je me suis dit, putain, mais le jeu vidéo, en fait, c'est un art à part entière, quoi. Parce que, enfin, voilà, je vais pas raconter le jeu, mais ça a été une grosse claque. Je sais que Julien, c'est pareil, il a pris une énorme claque avec ce jeu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je veux bosser là-dedans. Et comme je faisais une formation de journaliste, le plus évident, c'était d'aller bosser dans un média qui parlait de jeux vidéo. Et j'avais un pote avec qui j'étais en cours, il était stagiaire à Game One, Sébastien Floc.
Ouais, c'est
mon gars sûr. Et je lui dis, tu te démerdes comme tu veux, mais moi je veux aller faire mon stage là-bas, tu t'arranges. Il m'organise un rendez-vous avec le rédacteur en chef, Xavier Lambert à l'époque, me dit, bah tiens, fais-moi le test d'un jeu, celui que tu veux. Je dis, vas-y, je te fais, je crois que c'était Wipeout 2 ou 3. Qui n'était pas sorti en France. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On piratait toutes nos PlayStation, on mettait des puces dedans, on gravait des jeux sortis au Japon ou aux États-Unis. Et donc, j'étais capable de faire des jeux sans avoir accès aux jeux. Ça, il me dit, c'est quand même déjà pas mal, ça m'intéresse. Et il me dit, le problème, c'est que pour faire les captures, toujours ces fichues captures, il faut du matériel spécifique. Il n'était pas libre, ce matériel, il était pris toute la journée. Et moi, je lui dis, mais la nuit, je peux venir la nuit? Il n'y a personne la nuit. Il me dit, ah, vas-y, viens la nuit. Et donc, j'ai commencé comme ça, donc je voyais personne. Oui, je voyais Alex, il finissait mes mégots de cigarettes.
Et peut-être Xavier Lambert.
Il y avait lui et Xavier qui allait
Pour jouer. Et donc, au début, mon Game One, bah, je voyais des locaux la nuit et pas grand monde dedans, quoi. Tu vois?
Et ben voilà, ça a été les années Game One qui existent encore aujourd'hui, qui a un peu moins de jeux vidéo. C'est devenu plus une chaîne de contenu, des mangas, des séries, des choses comme ça. Il y a toujours quand même un peu de contenu jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était 100% jeux vidéo. Il y a même eu une chaîne musicale qui justement montait des clips sur des images de jeux.
Mais ça, c'était génial. Hein. Moi, je me rappelle qu'avant de bosser à Game One, moi, je regardais Game One. Et j'étais fasciné par les images de jeux montées sur de la musique, mais c'était pas des musiques de jeux vidéo, c'était des musiques pop, etc., qui étaient très bien choisies, qui étaient assez pointues et tout, et moi qui m'ont fait d'ailleurs découvrir des groupes, des artistes, et mêler ça avec le jeu vidéo, je trouvais que c'était extrêmement retentissant.
Encore une innovation de Matt Murdock.
Absolument.
De Patrick Giordano. On va marquer une pause musicale, on va s'écouter Les Enfoirés avec Sur la route de Memphis, mais avant... On rappelle qu'il faut faire des dons. On est là encore pendant 25 minutes. Faites-nous plaisir. On en est où ?
Nous sommes à 26 120.
Allez, faut pousser. Non, ça va pas.
Faut pousser les enfants.
Non, ça va pas. Bon, alors faites des dons, s'il vous plaît. Et puis nous, on va vous en faire aussi en échange. Voilà, c'est un bon deal. On va vous offrir le bouquin de Nicolas Bozon dont on parle ce soir, qui s'appelle Téléstart, qui est sorti cette semaine chez Omak & Book. Vous nous appelez au standard.
Au standard, évidemment, au 01 46 20 31 31. Et on a des messages aussi sur Twitter de Romain. Excellente émission, Bertrand. Moi qui adore les médias, c'est vraiment du petit lait à écouter.
Merci,
je
Romain.
Je vais acheter le livre aussi.
Merci,
dernier
Romain.
Message de Antoine. Si vous avez maté du jeu vidéo à la télévision quand vous étiez gosse ou ado, vous ne pouvez pas rater cette émission.
Merci beaucoup. Continuez de nous envoyer des messages sur Twitter et de nous appeler, puisqu'on va jouer avec vous. On va vous faire participer à un quiz pour gagner ce bouquin dédicacé par toutes les personnes qui sont autour de la table.
J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvez de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis des Enfoirés sur Radio Resto, il est 21h38.
Radio Resto, un petit don.
Plus un petit don.
Plus un petit don.
Égale un gros camion.
40 000 euros, c'est le montant qu'il faut atteindre pour financer un premier camion. Je dis un premier parce qu'on ne va pas se contenter d'un camion ce week-end. Donc allez-y, continuez à faire des dons. Vous allez sur l'application des radios, de Radio Resto, sur le site. C'est hyper simple. 75% de déduction fiscale. Faites-nous plaisir. Montrez que les gamers ont du cœur. On est là encore pendant une vingtaine de minutes pour revenir sur l'histoire du jeu vidéo à la télévision. On a parlé de Game One. Il y a eu une autre chaîne dédiée aux jeux vidéo, qui est une chaîne qui a vraiment une place unique dans le cœur de tous ceux qui aiment le jeu vidéo à la télévision. Tu vas nous en parler, puis on va laisser la parole à son papa. C'est bien sûr No Life, Nicolas.
No Life, c'est fou, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vénèrent cette chaîne. Donc c'est absolument incroyable, No Life. Vous avez réussi un truc complètement impossible, mais vous l'avez fait. Et ça, c'est fou, en fait. Mais encore aujourd'hui, merci, quoi. Merci beaucoup.
Et
quoi.
On a vu naître beaucoup de talents sur No Life. J'étais hier au spectacle de Monsieur Poulpe. C'est là qu'on l'a découvert avec Davy Mourier. Alex Pilote, donc t'es le papa de No Life. Comment est née cette chaîne ? Parce que tout à l'heure, on parlait de Canal+, d'Infogrames, qui étaient des groupes extrêmement puissants et riches. La télé, ça coûtait très cher à l'époque. Hein. Maintenant, les moyens vidéo permettent à qui le souhaite de lancer sa chaîne sur Twitch, sur YouTube, etc. Mais à l'époque, ça coûtait cher. Comment t'as fait pour lancer une chaîne de télé ? Ce qui, encore aujourd'hui, me paraît être un truc incroyable que t'as réussi.
Bon, je l'ai fait avec principalement mon pote Sébastien Rocher, qui était le PDG de la chaîne. Et donc j'ai bossé à Game One pendant plusieurs années. Au moment où on a lancé No Life, c'était l'époque où Game One se détachait un peu du jeu vidéo. Le slogan, c'était la catchphrase, c'était la génération digitale. Mm-hmm. C'était plus vraiment centré sur le jeu. Et moi, je proposais toujours des programmes à Game One. J'avais toujours des idées, mais c'était toujours vraiment trop nerdy. C'était juste pas possible pour Game One, quoi. C'était plus leur cible. C'était pas ça qu'ils cherchaient à faire. Et c'est un peu par hasard avec Seb, on regardait, on était un peu désespérés, on disait, on trouvera personne, parce qu'on proposait aussi ailleurs, mais personne ne voulait nos projets, hein, personne. Donc on est tombé sur une chaîne qui s'appelait Téléplaisance, qui était sur la Freebox, et eux ils avaient un concept un peu barré, c'est les gens filmaient leurs émissions, ils envoyaient à Téléplaisance avec un petit chèque, je sais plus, c'est 60 euros l'heure. Et après, on leur passait leur programme à la télé. Voilà le principe de Téléplaisance. Donc, on trouve ça un peu incroyable. Première idée, on va faire nos émissions, on va les envoyer à Téléplaisance.
On va envoyer un chèque.
C'est 60 balles. Allez,
et après, Seb, il fait, attends, je vais quand même les contacter. Je crois qu'il les contacte, il leur pose un peu des questions et on se rend compte que la diffusion sur Free, ça coûte presque rien. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était pas plus de 1000 euros par mois, un truc comme ça, voilà. Donc on se dit, 1000 euros par mois, ouais, on peut peut-être, si on passe un peu de pub, faire des trucs. Et du coup, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait mettre dedans. J'en ai parlé à mes amis et ils m'ont tous un peu dit la même chose. Ah oui, mais moi j'ai une idée, mais personne n'en veut. Et du coup, on a aggloméré comme ça tous les gens les plus nerds de nos connaissances. Et on a lancé la chaîne, vraiment en se disant au départ, c'est vraiment... on serait bête de pas le faire, il y a une opportunité là, techniquement on peut y arriver, pourquoi pas, et on sait bien que ça tiendra peut-être pas longtemps, mais il faut quand même essayer.
C'est magnifique. C'est magnifique d'apprendre comme ça les coulisses de cette chaîne qui a vu naître tellement de talents, de concepts. Cite-nous quelques-unes des émissions phares ou des talents ou des séries, hein, parce qu'il y a eu aussi des séries.
Il y a tellement de.
Visiteur a été diffusé puisque c'est dans l'actualité, non ?
L'histoire du futur, Visiteur du futur. Diffusé à l'époque. Par où commencer ? Déjà pour le jeu vidéo, parce que c'est ça le sujet. La première chose qui s'est passée, c'est que Marcus nous a proposé son émission chez Marcus. Mmh. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il était brouillé avec Game One. Il y avait vraiment la grosse dispute parce que
Atari, Marcus était parti, c'était barré.
Mais Level One continuait sans lui. Il n'était pas d'accord, donc il y avait un procès en cours. Hein. Ouais. Et puis, à côté de ça, il apprend qu'on fait ça, il m'envoie un mail, il fait « Alex, moi je te propose une émission, ça s'appelle chez Marcus ». Je fais « Ouais, carrément, je viens chez lui, on tourne ». Je fais un pilote et on avait notre pilote prêt à diffuser pour le lancement. Et je crois qu'on annonce ça, enfin on fait des trailers où on voit Marcus et Marcus me dit c'est super, grâce à ça maintenant Game One me rappelle pour bosser avec eux et il me propose un contrat où on règle nos problèmes juridiques. Et ils m'ont dit par contre ils veulent l'exclu, mais j'ai dit non, j'ai dit ok pour l'exclu, mais je veux juste garder No Life en plus, donc merci Marcus. J'ai trouvé très élégant de sa part, donc il est resté sur No Life et et il a continué sur Game One à ce moment-là, avec Retro Game One et tout ça. Donc ça va pour le jeu vidéo, et à l'opposé, on va dire que Marcus c'était la caution grand public, mais à l'opposé du spectre, le plus geek, le plus l'émission qu'on avait, c'était Super Play, donc c'est des super players, des mecs qui retournent les jeux, mais dans tous les sens, qui font des speedruns incroyables. Aujourd'hui c'est très courant, hein, les speedruns, on en voit sur YouTube, c'est accessible, c'est facile, les gens ont un peu une idée de ce que c'est, mais à l'époque... Le fait de passer cette émission sur No Life à cette époque-là, on était vus vraiment comme des fous. Et ça nous allait très bien. C'était cool, en fait. On était très contents, justement, de déclencher ce genre de réaction. Des gens qui disaient, mais vous êtes fous. Vous passez un mec qui joue à Shinobi, là, pendant une heure, et qui fait tout sans tirer le moindre shuriken. Ouais, c'est génial. Et voilà. Donc ça, c'était pour le jeu vidéo. Il y avait bien sûr des tests. Alors, on avait dit, non, nous, on fera pas des tests, on fera des critiques. Parce que les jeux vidéo, c'est de l'art. Voilà, on profitait un peu, voilà, de notre liberté pour un peu refaire le truc. Et comme j'avais eu la chance donc de bosser à Game One, j'avais à la fois pu apprendre mon métier, observer comment c'était fait et voir à quel niveau on pouvait améliorer le process pour refaire moins cher. Mmh. Je prendrai un exemple.
Et toutes les contraintes.
Voilà. Et l'exemple que je cite souvent, qui est le plus clair pour moi, c'est pour les voix off à Game One, il fallait monter en faisant la voix off dans sa tête, en chronométrant à peu près le truc et rendre la cassette sans la voix off et un texte à côté. Et la voix off était enregistrée après coup. Et j'avais demandé plusieurs fois, on peut pas enregistrer la voix off avant. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, bah, quand j'ai fait Nola, j'ai fait, on va faire la voix off avant. Eh ouais. Et donc, pour tous ceux qui ont monté un petit peu, tellement plus simple de monter avec une voix déjà enregistrée. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de choses qu'on a pu faire où j'ai remarqué qu'on pouvait peut-être, voilà, un peu fluidifier le truc. Pour faire ça low cost, quoi.
Bah ouais, non mais bravo. Franchement, ça a été une...
Bah, plus que bravo.
Ouais, plus que bravo.
Et c'est... moi, j'ai suivi tout ça, j'ai... Voilà. C'est quand même une des rares télés françaises qui produit... alors, on enlève les vidéos, clips que vous mettiez, mais 90% du temps d'antenne est produit par vous, quoi.
Oui.
Ça n'existe pas, quoi. Alors, ouais, c'est 90% inédit, quoi. Enfin, ouais, nous qui sommes de ces métiers-là, trouve-moi un autre truc, quoi.
Bah, c'est l'esprit un peu Wayne's World. Hein.
C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, la chaîne de télé produit 90% de programmes inédits. Ça n'existe nulle part ailleurs. Moi, c'est là-dessus que j'étais vachement
admiratif. Il y avait GamePro, quand même.
Il y avait GamePro, oui.
Ouais, c'est vrai que ma boîte faisait beaucoup de programmes.
Voilà. Matt, quand il a
à l'œil pour...
Même tu descends à 80, ça n'existe pas non plus.
Mais c'est vrai que, et en plus, sans aide du CNC, il faut le dire...
On continue, on continue de remonter. Donc franchement, magnifique histoire, celle de Game One, celle de No Life. Et on pourrait en raconter des tonnes, des anecdotes sur No Life. Il y a encore des programmes de No Life qui sont distribués en DVD ou en Blu-ray. Il y a
des fans qui ont créé des chaînes sur YouTube où on peut voir les archives.
Ouais, voilà, c'est vraiment top. Et puis effectivement, je le redis, Davy Mourier, Poulpe, qu'on produit beaucoup de choses. On peut pas parler de jeux vidéo à la télévision sans accueillir le recordman de longévité qu'on est en train d'essayer d'appeler. Vous nous dites en régie quand... Pas tout de suite. Bon, voilà, je le tease. Le recordman de longévité d'une émission de jeux vidéo à la télé, je pense que vous l'avez tous.
2006-2017, c'est-à-dire que hors Game One, évidemment, et hors No Life, c'est juste le gars qui restait le plus longtemps à l'antenne avec une émission de jeux vidéo sur Canal.
Fred.
Fred Moulin.
Bravo.
Fred Moulin qu'on essaie d'appeler, il est maintenant dans le sud de la France, il est à Valence, il est encore assez impliqué dans l'actualité du jeu vidéo et dans le développement du jeu vidéo. Et puis voilà, on a voulu l'appeler, on va essayer de l'appeler. On voit que le sujet est sans fin, hein. On pourrait raconter des anecdotes comme ça sur des tonnes d'émissions. C'est ce qui fait que est-ce que tu avais une idée lorsque tu t'es lancé dans cette entreprise d'écrire ce livre Téléstart, est-ce que tu te disais que ça allait faire 368 pages ?
Pas du tout. Florent qui est d'Omake Books m'a dit, bon, il faut que tu fasses un gros truc, il faut que tu fasses un pavé, c'est normal, c'est une histoire incroyable. Moi, je me suis dit, mais mec, je vais faire 100 pages. C'est pas possible. Télévisator 2, Game One, Micro Kids et Bertrand Amar. Et puis, qu'est-ce que je fais après? Et en fait, non, il y a des trucs de ouf dont on n'a pas parlé. Hugo Délire, par exemple. Hugo Délire, c'est juste incroyable, ce truc. Sur FR3, quoi.
Ouais, il y en a des tonnes. Et donc, on est avec Fred Moulin. Salut, Fred.
Salut, Bertrand. Bonsoir à tous.
On est trop content de t'avoir. On le disait, tu es le recordman de longévité d'une émission de jeux vidéo avec le Journal des jeux vidéo, émission également culte. Et puisqu'on est dans les anecdotes, moi je t'ai vu faire, hein, on se croisait sur les salons, etc. Cette émission, tu l'as portée quasiment tout seul pendant des années avant d'avoir une petite équipe autour de toi. Raconte-nous comment est née cette émission, comment t'es arrivé chez Canal et comment t'as réussi à placer ce que nous on n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire une émission hebdo sur une chaîne hertzienne pendant des années.
Bon, c'est dur de résumer 11 ans, mais en gros, pareil, moi, je suis arrivé un peu comme le mec qui maîtrisait Internet sur cette chaîne, voilà. Et puis, j'aimais bien les jeux vidéo et personne n'en parlait sur cette chaîne au moment où moi je suis arrivé. Donc, j'ai commencé à dire aux gens des sports, il faut parler du PES, là, qui est le jeu le plus vendu en France. Aux gens du cinéma, en leur disant, il faut parler aussi des jeux de Batman et de Matrix qui sortent. Et donc, on m'a dit, vas-y, donne-nous des images. Et puis après, on a commencé à me dire, mais peut-être que tu pourrais venir nous en parler en plateau. Donc, j'ai fait des quelques chroniques pour commencer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, mais il serait peut-être temps de faire une émission parce que, sur Canal, on passe beaucoup de sport et beaucoup de cinéma. Et il y a énormément de jeux. La qualité des jeux commençait à s'améliorer. À l'époque, Ariel Saraco me dit, vas-y, fais-nous un petit truc. Et je dis, de toute façon, je vais vous faire un truc très simple parce qu'elle me dit, débrouille-toi tout seul. Donc, effectivement... J'ai dit, on va faire un truc un peu comme le journal du cinéma, quoi. C'était à l'époque où il y avait le journal, le vrai journal, le petit journal, le journal du hard. Donc, on a dit, on va faire le journal du jeu vidéo. Et effectivement, les premières années, c'était juste moi qui partais avec ma caméra faire des petites interviews. Parce qu'il y avait cette envie de mettre des humains, en fait. Voilà. Parce que c'était pas une chaîne spécialisée jeux vidéo, Canal. C'était une chaîne pour les abonnés. Donc, il y avait cette envie de mettre des stars, quoi, à l'image. Donc, dès qu'il y avait un footballeur connu qui était là, j'allais l'interviewer. Et puis, petit à petit, comme ça, le programme a grandi. Donc, vous êtes toujours là parce que j'ai l'impression de parler tout seul.
On est là. Non, on t'entend, on boit tes paroles.
Et comme Bertrand et Alex, t'as été victime du Peggy 18, toi aussi. Et ça
absolument, oui, voilà, c'est ce qui a fait qu'au départ, l'émission était en clair le samedi midi, et puis un jour, on a passé, c'était Splinter Cell, Splinter Cell, oui, voilà, où on a mis un bon petit coup de poignard, puis là, on a reçu une petite lettre, là, et j'étais convoqué un peu comme, j'ai l'impression de me retrouver à l'école devant le dirlo.
C'était au CSA,
le CSA,
c'était au CSA,
ouais. On a tous connu ça.
Voilà, et donc après, on a dit, la seule possibilité de pouvoir faire continuer l'émission, c'est de la passer tard le soir, quoi, quand les gens sont couchés, ce qui fait que l'émission a été diffusée le dimanche soir après la soirée football.
Ouais, et t'avais un beau plateau. Plateau aussi. T'avais le diner qui est devant Canal Plus. Elle avait de la gueule, ton émission. Hein. Franchement, c'était
le diner de Canal Jimmy.
Voilà, on s'est dit comme ça va passer tard le soir, autant avoir plus de temps et puis essayons d'avoir un vrai plateau. Donc il y a eu ce diner qui était très bien, où après avoir voyagé, fait des reportages partout dans le monde, l'idée c'était de dire, on va essayer de faire venir les développeurs en plateau pour un peu comme Marcus, les faire parler de leur jeu, les faire venir et puis jouer aussi aux jeux vidéo en plateau. Et puis après il y a eu un peu dans les dernières années là le grand plateau avec un grand écran, un canapé,
la classe,
pour là aussi continuer à mettre en avant les consommateurs de jeux vidéo, les champions de jeux vidéo et puis les créateurs. Voilà, moi, ça m'a toujours plu de mettre en avant les humains du jeu vidéo.
Et puis, on arrive à la fin de cette chronologie du jeu vidéo à la télé. Canal a décidé d'aller sur l'e-sport autour de 2016-2017. On t'a demandé de fusionner un petit peu avec les initiatives e-sport de Canal+. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu vidéo à la télé, c'est beaucoup l'e-sport. Hein, ça, tu l'as remarqué, Nicolas.
Ah oui, complètement. Mais ça a déjà commencé un tout petit peu avec Fred Moulin, même pas mal quand même. T'as beaucoup parlé d'e-sport.
Oui, je me rappelle même j'avais fait pas les premières Gamer Assembly, mais en tout cas, je me rappelle de Neo, de Team Vitality qui transportait son CRT, parce qu'à l'époque, c'était les ordinateurs, quand on venait jouer en LAN, on amenait son gros PC avec un écran cathodique, etc. Mmh. C'était pas les petits portables d'aujourd'hui. Et après, je me rappelle des premiers moments, le jour où on m'a dit là, ça joue très sérieux là, c'est plus des mecs qui viennent juste s'amuser, et on appelle ça de l'e-sport. Ah, je fais d'accord, ok, c'est un nouveau mot ça. Et voilà, et donc effectivement. c'était marrant de voir un petit peu tout ça, toute cette évolution, en tout cas du jeu vidéo et de ce qu'il est aujourd'hui. Quoi.
Fred, tu restes avec nous, on va terminer avec un quiz, on va tous jouer. Donc, ce que je propose, c'est que quand quelqu'un a la bonne réponse, on donne son prénom, parce que sinon, on va pas s'entendre avant de prendre la parole. Mais il y a une question qui est arrivée sur Twitter.
Sur Twitter, avec le hashtag Radio Resto, il y a toujours notre cher Romain, qui écoute bien l'émission, qui nous dit « Le problème des médias avec les jeux vidéo, radio comme télé, n'est-il pas tout simplement le manque d'envie de capter les jeunes générations ?» Alors je vous pose la question à vous tous autour de la table et à toi aussi Fred.
C'est pas tant, à mon sens, le fait de pas vouloir les capter, c'est surtout le fait de pas les comprendre. Ouais. C'est surtout ça, parce que historiquement, les directeurs des programmes avaient envie de capter les jeunes générations, mais... Ouais. Ils ne savaient pas qu'il y avait notamment un truc qui leur plaisait, qui était le jeu vidéo. Quoi.
Et puis c'est à double sens, hein, parce que les jeunes générations ne captent pas vraiment la télévision. Hein. Aujourd'hui.
Mais c'est quand même fascinant, là. En 2 heures, on a vu le nombre d'émissions, d'initiatives, de projets, de la passion, des choses qui ont marqué vraiment des générations. Et aujourd'hui, que le jeu vidéo est beaucoup plus important qu'il ne l'était à l'époque, il n'y a plus rien à la télévision, globalement, sur le jeu vidéo. Donc c'est quand même un paradoxe qui est absolument phénoménal.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est la vrai. Distance avec la télévision traditionnelle, parce qu'il y a, enfin, c'est pas à toi que je vais le dire, vu le nombre d'idées que t'as eues, il y a 1000 façons, justement, de ramener ce public à la télévision. Par autre chose Absolument. Que d'un zapping du net ou regarder ces jolies images. Enfin, on a fait des reportages avec Debal, des documentaires magnifiques sur des créateurs, voilà quoi.
Allez, on y va. Le quiz de Nicolas qui va nous poser les questions et donc pour répondre, on donne son prénom.
Alors évidemment, si quelqu'un se reconnaît dans la question, évidemment, le point est invalidé s'il répond, évidemment.
C'est
l'élégance. Ouais. Quel animateur star a fait ses débuts avec Super Défi ?
Jean Pat.
De Chavannes.
De Chavannes.
Ah bah.
Le point pour Champagne. Le point pour Champagne. De Chavannes qui a commencé.
Avec Super Défi.
Avec une émission. Exactement. Dans laquelle il fait question de jeux vidéo.
Exactement. 1990, Hugo Délire débarque sur FR3. Mais dans quel pays a été créé ce personnage ?
La Belgique. Europe du Nord, non.
Israël, non.
Israël, non. Pas Israël.
Norvège ou Danemark.
Danemark. Finlande. Qui a dit Danemark ?
Jean-Pat.
Bah, excusez-moi, j'ai lu ton bouquin, pardon.
94, débarque sur M6, une émission de jeux vidéo.
Bertrand, méga 6.
Bien joué. Quel était son animateur ?
Guillaume Stanzik.
Bien joué, bien joué.
Il a lu le bouquin.
Qui compte les points là ? Vous comptez auto les points.
Ça dépend là si tu me donnes 2 points là ou Jean-Pat a 2 points. Bah parce que j'ai dit Stanzik et Mega 6.
quelques mois, les gars, quelques mois avant Micro Kids, une chronique fut la première à parler de jeux vidéo à la télévision sur Antenne 2.
Alex, gros plan sur la souris.
Voilà là,
oh, bien joué, joli.
Mais d'où ça sort, ça, gros plan sur la souris ?
Les dents serrées.
Franck Ladoire, Génération 4.
Franck Ladoire.
Génération Eric et Nola. J'ai regardé.
Allez, encore une ou deux questions.
Micro Kids était sponsorisé par un constructeur de consoles qui a un peu galéré.
Jean Pat.
Non mais. Jaguar.
Julien.
Bertrand, Jaguar.
Comment ?
Amstrad.
Non, pas Amstrad.
Ah ! Atari Jaguar, non ?
Philips, bien joué.
CDI.
Jean Pat.
CDI, Philips.
CDI. 1995, Jean-Michel Blottière quitte Micro Kids. Qui le remplace ?
Docteur Click.
Il a pas dit son nom.
Bertrand.
C'est son nom, oui, c'est bon.
Il est remplacé, le pauvre, par un robot en forme de joystick en 3D. Allez, une dernière parce que on doit balancer un.
Alors, Télévisateur 2, on finit avec ça. Télévisateur 2, tu ne réponds pas. De quel jeu vidéo célèbre s'inspire le générique culte de l'émission ?
Pardon ?
Fighter 2.
Bien joué, Street Fighter 2. Ouais. Qui l'a composé ?
Matt Murdock.
Ah non, pas composé.
Bah oui, mais tu l'as créé.
Voilà.
Ouais.
Allez, encore une, encore une, encore une.
Allez, encore une question. Voilà. Attends, tu m'as perdu. Oui, je suis là. Sur Game One, Didou a animé At Game One, mais aussi une autre émission.
Dawa.
Bien joué.
On aura de répondre, Patrick, à ça.
Bon, tout le monde a gagné.
Attends, j'en ai une dernière.
Une dernière.
Qui a coupé les cheveux de Cyril Drevet au milieu des années 90 ?
Je sais pas.
Jean Pat.
C'est
Jean-Pat qui a fait ça ?
Dorothée.
Bien joué.
J'allais dire Dorothée, mais j'ai pas osé.
Elle en avait ras-le-bol de voir ses cheveux longs dans le club Dorothée, elle y a coupé sans lui demander.
C'est Jean-Pat qui a gagné, hein. Bravo. Bravo Jean-Pat. Eh, franchement, les copains.
Je l'ai lu plus vite que vous, les gars, parce qu'il est vraiment brillant, ce livre.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Bertrand.
Merci. Franchement, j'ai passé un moment, mais de bonheur, parce que j'ai fait de la radio pendant de longues années et j'ai jamais eu l'occasion de parler de jeux vidéo à la radio comme on a pu le faire ce soir.
franchement, vous m'avez fait kiffer. Donc merci beaucoup. On rappelle que le bouquin est sorti. Si vous avez envie de découvrir encore plus d'anecdotes, ouais. Là, c'est que le teasing là, qu'on vous a fait pendant deux heures. Nicolas Bozom a sorti ce livre Téléstart aux éditions Omake Book. On va vous en faire gagner deux dédicacés par l'ensemble des intervenants ce soir. Fred, je sais que tu es encore au bout du fil. Merci à toi, Fred, aussi. Hein.
Merci à vous.
Et
merci,
à très bientôt. À très bientôt, Fred. Voilà, et on soutient les restos.
Voilà. Faut donner encore les gars, hein.
Merci Matt, Nico, Jean-Pat, merci. Julien, Alex et Alex. Les copains, franchement, c'était cool.
Merci à toi, Bertrand, c'est super. Merci.
Ouais, franchement, c'était cool.
Merci, Bertrand.
Faites-nous plaisir, faites des dons au resto et puis balancez-nous des messages sur Twitter avec le hashtag Radio Resto. On va vous faire gagner deux bouquins. Voilà, merci à toi, Virgile. C'était cool de t'avoir avec nous ce soir.
Ça fut un grand plaisir, Bertrand.
Partagez.
Merci, Virgile.
Partagez. Bon week-end encore, continuez de bourrer les dons. L'idée c'est d'avoir plein de camions devant Radio Resto là, d'ici la fin du week-end. Bon week-end, dans un instant on va retrouver un plan à 3 apparemment avec Bruno Guillon. Y a qui encore?
Manu Lévy et Laurent Petit-Guillaume.
Voilà, 3 Lascars, vous allez passer et forcément une excellente soirée avec ces messieurs. On va rester à les écouter. Bonne soirée à tous, il est bientôt 22h. On fait quoi maintenant, Virgile?
On s'écoute Gauthier.
Allez, vas-y.
Ça, c'était bien cool. C'était beau, les gars.